Nous sommes toujours sur Radio Libertaire, donc dans l'émission Sortir du capitalisme. Radio Libertaire, la radio sans Dieu, sans maître ni publicité. Et donc on va rentrer dans la seconde phase de cette émission. Et là, on va rentrer un peu plus dans les détails sur la question de l'émergence du capitalisme en Angleterre, donc avec Armand Paris, toujours. Avec nous, on va distinguer trois phases. La première, avec la crise du féodalisme au XIVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, avec, on va dire, une restructuration un peu du système agraire en Angleterre. Après, on rentrera un peu dans l'analyse d'une seconde phase qui est un peu la genèse de la guerre civile qui a éclaté en Angleterre dans les années 1640, début 1650. Essayer un peu d'analyser les restructurations qui ont eu lieu à ce moment-là. Et puis après, on analysera une troisième phase de l'émergence du capitalisme en Angleterre avec la période qui s'étale de 1689 à 1832 et la révolution militaire anglaise, et en gardant un peu à l'esprit aussi nos indicateurs, enfin voilà, pour parler un peu caricaturalement, sur la question du capitalisme, c'est-à-dire l'émergence d'un marché unifié, d'une logique de vente de force de travail et une logique aussi d'entrepreneuriat et de profit au niveau des producteurs particuliers. Donc voilà, regardez aussi comment ces spécificités émergent en Angleterre. Du coup, si tu pouvais nous donner un peu des éléments, Armand, sur la question de la crise du féodalisme. La réponse, il y a eu des réponses différenciées à cette crise entre les différents pays, que ce soit par la colonisation en Espagne ou justement cette forme de restructuration agraire en Angleterre. Nous préciser un peu comment est-ce qu'elle se manifeste en Angleterre et quelles sont ses implications.
Alors, tout d'abord, c'est important de préciser que la crise du féodalisme, c'est quoi? En fait, c'est la conjugaison d'un épisode de peste qui tue un tiers de la population européenne. Cet épisode de peste coïncide en gros avec, disons, une crise de la sphère monétaire et commerciale du féodalisme européen. Et du coup, ça entraîne une crise assez généralisée des revenus seigneuriaux. Globalement, par exemple, jamais les paysans et les artisans n'ont été autant en position de force qu'après cette crise qui, évidemment, fait qu'il y a beaucoup moins d'artisans et de paysans. Donc, du coup, on est obligé d'être un peu plus gentil avec eux, quoi. Alors, du coup, cette crise du féodalisme, il y a différentes réponses de la part des différents groupes dominants en place à cette époque. Et Marx d'ailleurs en parle dans le dernier chapitre du Capital, qui, même s'il y a un certain nombre de problèmes, n'en demeure pas moins intéressant sur ce qu'il raconte notamment, en fait, sur l'Angleterre, sur l'émergence du capitalisme en Angleterre. C'est assez intéressant. Donc voilà. Donc cette réponse, comment elle se fait? Bon, alors en Espagne, donc ça va être le colonialisme, mais il n'y a pas de restructuration des rapports sociaux. On reste sur des rapports sociaux féodaux, et le capitalisme en Espagne, pardon, mettra très longtemps à émerger, pas avant le 19e siècle. On reste sur une logique féodale, et je pense que c'est important de préciser que le féodalisme ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a pas de monnaie, qu'il n'y a pas de commerce, qu'il n'y a pas évidemment même de force de vente de la force de labeur, qu'il n'y a pas un petit peu de salariat, qu'il n'y a pas tout ça. Si, bien sûr. Et en fait, ça fait partie du féodalisme. Le féodalisme, c'est pas le seigneur qui va ponctionner des cochons et des carottes à son paysan. Le féodalisme,
Des corvées.
c'est ça, des corvées. Le féodalisme inclut structurellement, c'est ce que dit par exemple Wallerstein, et là-dessus il a raison, la monnaie et une partie par exemple, de la ponction féodale, de l'appropriation du surlabeur paysan par les féodaux, par les seigneurs, se fait notamment par le biais de la monnaie. Il y a du commerce, il y a même des formes pas vraiment de salariat, mais il y a des journaliers, etc., etc. Donc voilà, c'est pas la question n'est pas là. Alors, bon, ça se fait de manière différente en France. En France, globalement, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une espèce de centralisation, entre guillemets, du féodalisme, c'est-à-dire que face à ce groupe paysan, cette classe paysanne, au sens non capitaliste, hein, voilà, qui globalement est dans un rapport de force plus favorable, parce qu'ils sont moins nombreux, donc ils peuvent négocier les terres qu'ils vont occuper, ils peuvent négocier des rentes à la baisse, etc., etc. Il y a énormément de révoltes à cette période. Donc, la réponse de du groupe, enfin, des seigneurs, du groupe féodal, au sens très large, hein, jusqu'au roi, qui est le seigneur des seigneurs, hein, tout simplement, ça va être globalement la centralisation pour opérer un renouvellement du prélèvement sur les paysans. C'est-à-dire que l'absolutisme, c'est avant tout un moyen de renouveler, de retrouver le niveau de prélèvement seigneurial avant la crise du féodalisme. Et donc, ce qui fait que les seigneurs vont non seulement obtenir des avantages de la part de l'absolutisme, donc par exemple, ils vont obtenir le droit, ils vont pouvoir s'approprier une partie des communs, avec le droit de triage dans les années 1660. Ils vont pouvoir demander voilà, tout un tas de droits, tout ce qu'on appelle les droits féodaux. Ils vont pouvoir retrouver le prélèvement qu'ils avaient. Et en plus, ils vont bénéficier d'une partie du prélèvement monarchique. Parce que, par exemple, certains seigneurs vont acheter des charges voilà, judiciaires, des charges de magistrats royaux et tout ça. Et les titulaires de ces charges récupèrent une partie des impôts qui sont prélevés par la monarchie. Et la monarchie arrive à capter ses impôts, et ben tout simplement parce qu'elle a une force armée. Voilà. Donc en France, ça va se passer comme ça. Ça va être une espèce d'augmentation, enfin de rétablissement du prélèvement féodal, qui se fait beaucoup sous forme d'argent, effectivement. Voilà, par l'absolutisme. En Angleterre, la sortie de crise du féodalisme, donc tout ça, évidemment, en France, ça va donner naissance à l'ancien régime. Voilà. Alors, en Angleterre, la sortie de crise va se passer différemment. C'est-à-dire que les seigneurs, face à cette situation, plutôt que de chercher à, disons, réinst... enfin, à... ils vont essayer de rétablir leur ponction à des niveaux antérieurs à la crise du féodalisme, mais ils vont pas réussir pour tout un tas de raisons. Et du coup, la solution qu'ils vont trouver, ça va être tout simplement d'entamer un premier cycle d'enclosure, c'est-à-dire d'exproprier une partie de la paysannerie, des communs notamment, pour mettre à la place des moutons.
En sachant qu'il y a déjà eu une crise de main-d'œuvre liée à la peste aussi
C'est ça, voilà.
au
Donc,
XIVe siècle.
du
Et
coup, du coup.
c'est un peu dans la continuité aussi d'une déstructuration du tissu agraire en Angleterre.
C'est ça, il y a des terres de libre, et donc du coup les seigneurs vont tout simplement se les approprier, et ils vont mettre des moutons dessus, ça demande très peu de main-d'œuvre, qu'on n'a pas besoin de payer très cher, et toute cette laine va ensuite être envoyée sur, disons, des proto-industries qui sont non capitalistes, qui font partie de ce qu'on pourrait appeler le commerce, voilà, pas une logique capitaliste, dans les Flandres. Voilà. Et donc, du coup, les seigneurs vont essayer de rétablir disons leur niveau de prélèvement par ce biais-là, par une première vague d'enclosure. Et cette première vague d'enclosure, elle va avoir comme conséquence qu'elle va déjà, bah, qu'elle amorce déjà, qu'elle constitue une première vague d'expropriation de la paysannerie qui va se retrouver un peu. Qui va se retrouver alors pour l'instant, c'est une toute petite partie hein, de 1350 à 1550, mais qui va se retrouver jetée de ses terres et qui va donc devoir aller en ville. Voilà, c'est déjà le début de la croissance de Londres, mais on reste sur des niveaux quand même assez faibles. Et donc, bon, il y a quand même un petit salariat qui se développe en Angleterre, mais pour l'instant, on n'est pas encore sur un véritable basculement dans le capitalisme. Mais il y a déjà une logique voilà, assez importante qui s'amorce.
Et Londres, qui en 1530 compte environ 50 000 habitants, si je ne me trompe pas, mais qui par contre va augmenter en taille entre 1530 et 1700, passer de 50 000 à environ 500 000 habitants, et du coup va être voilà, une urbanisation grandissante qui est là assez inédite au niveau européen. Et, tu peux nous préciser un peu cette dynamique aussi.
Bah, en fait, ça renvoie déjà en fait à la. Bon, alors disons que voilà, donc la crise du féodalisme globalement est un petit peu résorbée par cette première vague d'enclosure, mais il va y avoir des fortes contestations au XVIe siècle contre, disons, ce rétablissement du pouvoir seigneurial, voilà. Parce que globalement, au début du XVIe siècle, les seigneurs ont retrouvé leur pouvoir, et donc ils essayent de prélever un peu plus de leurs paysans. Et donc il va y avoir d'énormes révoltes de paysans, notamment en 1549, il va y avoir d'importantes critiques des enclosures. Et donc ça va freiner un petit peu le processus des enclosures pendant une petite période, et il va y avoir, je ne sais pas de quand est-ce qu'on pourrait dater ça vraiment, mais disons à partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, il va y avoir un nouveau cycle d'enclosure qui s'enclenche et qui, voilà, donc sous le règne des Tudors, notamment après les guerres civiles anglaises qu'on ne développera pas, parce que les premières guerres civiles, ce qu'on appelle la guerre des roses, bon, on ne développe pas, mais globalement, voilà, c'est la dynastie des Tudors qui gagne, avec notamment Elisabeth Ier. Et elle, même si elle met quelques limites quand même au développement, disons, d'une agriculture commerciale, va y quand même y avoir un premier développement très important de l'agriculture commerciale, parce qu'il va y avoir des nouvelles vagues d'enclosures, et ces enclosures, elles ne vont pas se faire au profit de l'élevage de moutons pour vendre de la laine à des ateliers textiles dans les Flandres, pour le grand commerce de la laine, enfin du textile, un commerce donc voilà issu du Moyen-Âge, un commerce précapitaliste, mais plutôt pour pouvoir faire de la céréale principalement. On va faire massivement du blé, et ce blé va aller nourrir un marché qui grossit. Bon, c'est un peu une mécanique circulaire, c'est-à-dire que on exproprie les paysans parce qu'on en a la possibilité et que, ça, que c'est intéressant pour rétablir pour rétablir, maintenir ou agrandir les revenus seigneuriaux. On va exproprier une partie de la paysannerie pour ça, et une partie on va les employer comme journaliers. Et du coup, tous ces gens expulsés des campagnes vont aller grossir les rangs des gens qui à Londres sont dépendants pour leur subsistance, un, de la vente de leur force de travail, et deux, de l'achat sur le marché. Et du coup, ils vont devoir aller acheter du blé. Voilà. Et du coup, il va y avoir une expansion de Londres qui est effectivement assez faramineuse. Voilà, les chiffres que tu as donnés sont à peu près exacts, il me semble. Voilà, effectivement, la population est multipliée par 10 en 150 ans. Et du coup, alors, fin du XVIe siècle, on n'est pas encore sur un marché au sens capitaliste, un marché unifié, il y a des droits de douane, il y a tout un tas d'autres trucs, mais globalement, on est déjà sur une dynamique de commercialisation très forte, c'est-à-dire que les seigneurs vont exproprier les paysans pour pouvoir produire déjà ce qu'on pourrait appeler voilà, des marchandises agricoles qui vont être vendues à Londres. Alors, sauf que Londres, bon, c'est pas encore, ça fait pas encore partie du même marché, mais bon, c'est des zones qui sont pas très loin de Londres, où il n'y a pas vraiment beaucoup de droits de douane, donc on est déjà sur quelque chose qui ressemble déjà un peu à un marché capitaliste. Des historiens comme Robert Brenner et Hélène Mexine-Soud, sur lesquels je m'appuie beaucoup pour tout ce que je dis, eux, ils considèrent que c'est déjà du capitalisme. Moi, je pense qu'il faut attendre encore un petit peu, mais globalement, on est déjà sur une dynamique très forte de commercialisation de l'agriculture qui a déjà dépassé tout ce qu'on a connu jusqu'à cette époque. Et je voudrais rajouter une deuxième chose, parce que c'est quelque chose qui se passe aussi à la fin du XVIe siècle, et qui est aussi une dynamique inédite dans l'histoire. Donc cette première dynamique historique, c'est l'expropriation d'une partie quand même de plus en plus importante de la paysannerie, pour pour la commercialisation, pour de la production commerciale de denrées agricoles. Et là, la deuxième dynamique, ça va être, à partir de 1566, il y a une loi qui autorise l'appropriation privée des terrains, des mines, des terrains miniers, des ressources minières, à part l'or et le diamant que la couronne d'Angleterre se réserve. Et du coup, va y avoir une ruée vers le charbon, voilà, qui est un moyen de chauffage à l'époque, qui n'est pas encore un moyen de chauffage et un moyen qui sert déjà dans les manufactures qui existent à cette époque, qui sont peu nombreuses, hein, qui ne sont pas très décisives. Mais voilà, il y a déjà des manufactures, voilà, qui travaillent dans le domaine, voilà, du fer, un peu de la métallurgie. Bon, c'est pas très très développé, mais enfin, voilà, ça existe. Il va y avoir une ruée vers ce charbon, et il va y avoir des enclosures minières, c'est-à-dire qu'on va trouver du charbon et on va exproprier les gens qui ont leur champ au-dessus de ces terrains miniers. Et il va y avoir une explosion des quantités de charbon, et c'est aussi ce qui fait que va y avoir un gros développement de Londres et de certaines villes au nord-est de l'Angleterre, parce que les gens sont chassés des campagnes, aussi par accroissement démographique, par tout un tas de logiques, aussi par le fait que les rapports de propriété sont en train de se transformer, c'est-à-dire que les paysans deviennent de plus en plus des locataires de leurs terres, et non plus des tenanciers, comme sous le féodalisme, c'est-à-dire que c'est pas seulement qu'ils doivent donner une partie de leur production, ou de l'argent, etc., etc. à leur seigneur chaque année, c'est qu'en plus, ils doivent louer. Enfin, ils doivent payer une rente. Ils sont locataires. Et bon, s'ils payent plus leur loyer, ils se font virer, quoi. Et donc, il y a tout un tas de gens qui sont drainés vers les villes. C'est pas grave. Et donc, ils constituent un marché. Et en plus, on peut les nourrir. Et d'un autre côté, on peut aussi les chauffer. Parce qu'évidemment, en Angleterre, il fait un peu froid. Et du coup, on peut les chauffer massivement. Et on peut plus trop les chauffer au bois parce que les forêts de Londres, elles en peuvent plus. Autour de Londres, elles n'en peuvent plus. Et donc, ce qui fait qu'au début du XVIIIe siècle, l'Angleterre produit plusieurs fois la quantité de charbon que le reste du monde entier. Voilà. Donc, on est vraiment sur... Ça, c'est une deuxième dynamique de production commerciale massive qu'on retrouve qu'en Angleterre et qui est importante à souligner.
Et du coup, au niveau de la structuration, on va dire, des campagnes, on voit là des... très 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 grande différence avec ce qui s'est passé en France par exemple, avec effectivement un marché des terres, enfin des baux très précoces, des grands fermiers, alors que bon, si on prend le cas de la France, on va dire que les ménagers, les manouvriers partent des campagnes plutôt dans la période de la fin du 18e, courant du 19e siècle. Donc on est sur des temporalités qui n'ont absolument rien à voir en termes d'exode rural et de constitution d'une main-d'œuvre ou une armée de réserve de salariés potentiels dans les futures industries. Donc sur ce plan-là, on a des dynamiques très singulières en Angleterre. Et peut-être tu peux revenir aussi sur la question de la genèse de ce qui va être la guerre. Enfin, on va passer à une autre période, mais peut-être revenir sur la question de la genèse de la guerre civile anglaise, qui est aussi un tournant structurant, donc là plus au XVIIe siècle. Donc voilà. Mais qui a des liens avec les deux dynamiques qu'on vient de présenter juste avant.
Alors, je pense que c'est important de rappeler que la guerre civile anglaise, c'est globalement des guerres qui durent de 1640, le moment où globalement la guerre civile est déclarée. Je vais expliquer de quoi il s'agit, jusqu'en gros au settlement de 1689. Donc en gros, ça dure 49 ans avec des périodes de paix entre deux. Mais globalement, c'est la période dans laquelle on va avoir toute une dynamique de transformation sociale qui sont très, très importantes. Alors avant, donc du coup, de parler de ces transformations sociales, il faut parler de la genèse. Et bien évidemment, c'est de la genèse de la guerre civile anglaise. Alors évidemment, cette genèse, il faut la comprendre à l'aune de ce qu'on a déjà dit, c'est-à-dire des restructurations de la société anglaise au XVIe siècle, et puis avant aussi, hein. Et ces restructurations, c'est tout d'abord, l'essor de toute une partie, je ne sais pas si on pourrait appeler ça une classe, mais disons de tout un groupe sociale d'aristocrates qui, pour augmenter leurs revenus seigneuriaux, ont décidé d'exproprier, de s'approprier une partie des terres de leurs ex-paysans et de faire de la production commerciale massive de denrées agricoles. Et du coup, c'est donc cette partie de l'aristocratie, globalement, elle est plutôt hostile à l'absolutisme, c'est-à-dire au roi, à un roi qui chercherait voilà, à conserver à tout prix les vieilles structures sociales de l'Angleterre, des Tudors, c'est-à-dire avec beaucoup de limitations sur le marché, etc., etc. Avec le roi, par exemple, donc ça va être l'autre camp, le camp royaliste. Donc, il va y avoir le camp révolutionnaire, entre guillemets, et le camp royaliste. Dans le camp royaliste, on va retrouver, par contre, l'oligarchie de la City, qui est, là je ne l'utilise pas du tout au sens contemporain, mais voilà, au sens où c'est un groupe qui dispose voilà, de tout un tas de privilèges juridiques et de tout un tas de monopoles, voilà, sur le commerce extérieur, sur le commerce. Surtout sur le commerce extérieur, les corporations, les maîtres des corporations, donc qui jouissent d'un monopole, de protection des villes, tout ça, de régime douanier spécifique et tout ça, vont se ranger du côté du roi. Et la vieille aristocratie, donc l'aristocratie qui s'est pas lancée à fond de balle dans la production commerciale de denrées agricoles, mais qui reste sur un vieux modèle de prélèvement, voilà, c'est-à-dire. On ponctionne les paysans, mais c'est eux qui travaillent la terre. Globalement, eux, ils vont se retrouver dans le camp royaliste. Et dans le camp révolutionnaire, eh bien, il va y avoir, en gros, à la tête, ça va être principalement ces aristocrates fonciers, mais qui vont former un peu la base sociale en termes d'intérêt de cette révolution. Mais globalement, ceux qui vont la diriger, c'est principalement des marchands. Des marchands. Mais qui ne sont pas des marchands avec bénéficiant de privilèges royaux. C'est des marchands qui eux, ne bénéficient pas de privilèges et qui, du coup, en ont un peu marre des privilèges, qui sont contre les privilèges. C'est aussi pour ça qu'ils vont chercher à les abolir. Un petit peu comme la bourgeoisie d'Ancien Régime en France, en 1789, va pas abolir les privilèges parce qu'elle est gentille, mais parce qu'elle n'en bénéficie pas. Donc, elle préfère les éliminer. Et donc, voilà, donc il va y avoir ces marchands qui n'ont pas de privilèges, ces aristocrates qui se sont lancés dans la production commerciale de denrées agricoles. Voilà, globalement, ça va être ça, disons la classe dominante du camp révolutionnaire. Après, bon, évidemment, ils vont utiliser des artisans, des paysans comme soldats et tout ça. La guerre va se déclencher en 1640 parce que le roi de l'époque, Charles Ier, en gros, veut lever des impôts pour faire des nouvelles guerres. Et
Il faut peut-être dire aussi que la trame de fond de toute cette histoire, c'est des guerres aussi perpétuelles de l'Angleterre. Donc peut-être ouais, repréciser aussi un peu, voilà,
alors là, en
c'est
l'occurrence,
pas.
c'est des guerres perpétuelles. Alors bon, il y a différentes guerres, de différentes di différentes grandes guerres avec, enfin différents grands adversaires, disons, dans l'histoire anglaise. Là, la période dont je parle, 1640, c'est plutôt les Espagnols. Les Espagnols qui ont tenté d'envahir l'Angleterre en 1588. Et bon, voilà, il y a des guerres navales perpétuelles encore dans les années 1630. Et du coup, bon, Charles X veut lever des impôts pour faire la guerre. Alors, je ne sais plus si c'est exactement contre l'Espagne, je ne le dirai pas parce que je ne suis pas sûr. Mais il veut lever des impôts et disons les aristocrates fonciers qui globalement produisent pas mal de denrées agricoles comme marchandises ont pas envie, voilà, refusent de voter de nouveaux impôts. Ils ne voient pas l'intérêt de ces nouvelles guerres. Ce n'est pas des guerres qui leur est avantageuse. C'est des guerres qui ont des buts géopolitiques, mais qui n'offrent pas d'avantages économiques. Comme par exemple la conquête de l'Irlande, ça va avoir plein d'avantages économiques. Mais là, la guerre contre l'Espagne, bon, c'est pas très intéressant. Eux, ils font pas tellement de commerce extérieur et tout ça. Bon, en gros, ils vont refuser de voter ces lois. Donc cette classe d'aristocrates, disons, progressistes, dans le sens où ils produisent des marchandises et ils ne restent pas sur le vieux modèle de prélèvement du surlabeur paysan, ce qu'on appelle la gentry. Mais bon, voilà, après, il y a des historiens qui disent... Mais globalement, on peut dire que c'est la gentry. Et donc, cette gentry, elle va refuser de voter les impôts et le roi voulant à tout prix lever ses impôts, ça va finir par une confrontation généralisée. Cette confrontation généralisée, donc, il y a ces deux camps. Donc, d'un côté, la gentry, les marchands qui ne bénéficient pas de privilèges, les industriels qui sont en dehors du système des corporations, donc globalement, les gens qui n'ont pas tellement intérêt à ce qu'on pourrait appeler l'économie d'ancien régime, et puis les artisans, les paysans, tout ça, comme hommes de lige. Et d'autre part, le roi et tous les défenseurs de l'ancien régime économique vont s'affronter. Et en 500, alors il y a plein de revirements, je pense qu'on s'en fout, on n'a pas besoin de les développer. Mais en gros, en 1649, le roi perd et sa tête est tranchée. Et donc, va y avoir la seule période de l'histoire de l'Angleterre de république, de 1649 à 1660, ça va être la République de Cromwell, qui globalement est une république de marchands. Donc, les marchands qui ont gagné. Hein. Ces marchands, leur principal ennemi, c'est la Hollande. Et donc, du coup, il va y avoir énormément de guerres avec la Hollande. Cromwell va finir par être destitué, enfin, par mourir, et puis son fils va être destitué. Et ça va y avoir un retour de la monarchie anglaise avec Charles II en 1660, qui globalement, c'est important de le dire, qui ne cherche pas à revenir sur l'ancien régime. Il a compris l'absolutisme l'absolutisme à la Charlemagne, ça ne marche pas. On ne gardera pas les vieilles structures, enfin ce qu'on pourrait appeler l'ancien régime économique. Et donc, globalement, je vais développer après là-dessus, hein, mais globalement, tout ce qui a été acquis par les propriétaires capitalistes, maintenant, je pense qu'on peut les appeler les propriétaires capitalistes agricoles, tout ce qui a été acquis par eux, c'est-à-dire, je vais quand même le préciser, le droit de propriété. Là, le droit de propriété absolu, il naît de manière certaine, peut-être pour la première fois, en Angleterre, au milieu du 19e siècle. S'il fallait donner une date précise, on pourrait dire 1641, 1642. Au milieu du 17e, pardon. Droit de propriété absolu, qui fait qu'on a une transformation et qui est confirmée par Charles II, parce qu'il faut quand même en parler, en 1660. Et donc, c'est quelque chose de fondamental dans l'histoire, je pense. C'est le moment où on passe d'une relation entre un seigneur et un paysan devant un certain nombre ayant un certain nombre d'obligations, et devant se faisant ponctionner une partie de sa récolte par le seigneur. Et on passe à un autre modèle, qui est la fameuse triade de Marx, dont Marx parle notamment dans le livre 3, avec le propriétaire capitaliste, qui a évincé tous ses anciens tenanciers, tous ses anciens paysans, et qui est devenu maintenant qui est propriétaire de la terre. Il est plus, c'est plus qu'il est, il a des dépendants qui lui assurent un certain nombre de récoltes, qui bon, lui il possède pas vraiment la terre, enfin il en fait pas grand chose quoi. Là c'est vraiment il est propriétaire d'une chose qui est la terre, et il va la louer. Il reçoit quelque chose en échange. Non, c'est pas il reçoit des dons obligatoires, etc. Il va la louer à des fermiers capitalistes. Ces fermiers, y a un espèce de marché de la rente capitaliste, donc voilà, qui fluctue en fonction du temps, un petit peu comme aujourd'hui, quoi. Et donc les fermiers vont s'amener sur ce marché, bon, qui n'est pas encore généralisé et anonyme, mais ils vont amener, ils vont dire, bon bah moi, voilà, je peux vous offrir tant de rentes par an, et donc ils vont prendre le plus offrant, et lui, il va acheter de la force de travail agricole, donc une partie des anciens paysans, il va les prendre comme journaliers, comme salariés agricoles, donc c'est la naissance du salariat, massivement dans les campagnes anglaises au XVIIe siècle, et ces salariés agricoles, voilà, ils vont produire des marchandises agricoles, ils vont devoir les produire de manière... et le fermier doit s'assurer que cette production va être rentable. Et donc du coup, il y a une compétition généralisée. Tout le monde vend au même marché, qui est globalement le marché de Londres, qui est déjà un énorme marché avec des centaines de milliers d'habitants. Tous ces fermiers capitalistes sont en compétition pour vendre sur le marché de Londres, alors qui n'est pas un lieu unique, hein, mais globalement, il va y avoir une abolition des frontières douanières au cours du XVIIe siècle, des frontières douanières intérieures. Donc on est vraiment sur un marché unitaire. Là, on peut parler vraiment de capitalisme. On est sur un marché unitaire et tous ces fermiers capitalistes se battent pour rester concurrentiels sur ce marché unitaire et donc ils vont chercher à améliorer la productivité agricole. Et c'est pour ça qu'ils parlent toujours d'improvement au XVIIe siècle, d'amélioration. Ils vont voilà, adopter tout un tas d'innovations agraires dont on ne va pas parler parce que c'est trop technique. Et on en parlera dans une autre émission qu'on fera sur l'histoire de l'agriculture. Mais voilà, et ils vont rentrer dans une dynamique de compétition généralisée avec des contraintes structurelles qui conduisent à ce qu'il faut perpétuellement améliorer cette productivité et cette compétitivité. Et donc là, on peut vraiment dire qu'il y a un basculement des rapports socio-agraires. Et ces basculements, ils sont notamment liés au bouleversement de la guerre civile anglaise, qui ne seront pas remis en cause voilà, avec le retour de la victoire du camp monarchiste en 1660. Et alors, juste pour finir sur la guerre civile anglaise, de 1660 à 1685, il se passe globalement, il y a une certaine stabilité, mais on est déjà dans le capitalisme globalement.
Après, juste avant que tu passes sur cette phase, peut-être préciser que ça s'est pas fait sans heurts aussi dans les campagnes, avec notamment le fameux mouvement des diggers pendant la guerre civile, parce qu'il y a toute une classe de sans-terre et qui ne sait pas comment trouver, enfin comment s'employer ailleurs, et une forme de paupérisation là aussi très forte dès le XVIIe siècle, avec les workhouse anglaises, etc. Enfin, il y a des choses qu'on verra beaucoup plus tardivement dans pas mal de pays là qui s'illustrent aussi à ce moment-là.
Bah, je pense que ouais, tu as raison. Effectivement, il faut rappeler quand même que déjà au XVIIIe siècle, globalement, il n'y a plus qu'une minorité des terres qui est aux terres des paysans. Et en fait, le XVIIe siècle et aussi le XVIIIe siècle, c'est un vaste processus d'expropriation de la paysannerie. Alors, qui n'est pas toujours une expropriation, disons, directe dans le sens je te prends ta terre et tu dégages. Ça peut être des mécanismes d'expropriation par dette. C'est-à-dire qu'au début, les seigneurs vont parfois louer les terres que les paysans occupaient, ils vont les louer aux mêmes personnes. Sauf que, comme on est sur un marché concurrentiel, les rentes qui vont être exigées vont être de plus en plus fortes. Et donc, à un moment, le paysan ne sera plus suffisamment rentable pour suivre le niveau de rente qui est exigé, il va s'endetter et il va finir par se faire
D'où cette logique
exploiter.
d'improvement et d'augmentation de la
C'est
productivité et
ça.
d'augmentation des profits
Et ceux qui ne
avec
sont...
un marché qui devient concurrentiel
C'est ça.
aussi et qui est unifié parallèlement avec la baisse des tarifs douaniers, etc. Donc ça, c'est beaucoup de choses se mettent en place
C'est ça.
à ce moment-là, du point de vue du capitalisme, des indicateurs un peu
C'est
qu'on
ça.
voulait regarder.
Et du coup, les paysans sont massivement expropriés, donc que ce soit par les enclosures ou par des processus de dette, d'endettement, ou voilà, parce qu'ils ne, ne. Et là, on est vraiment dans les mécanismes d'expropriation comme aujourd'hui, c'est-à-dire beaucoup de paysans aujourd'hui. Effectivement, parfois on saisit la terre arbitrairement, mais souvent c'est des processus d'endettement. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent plus à suivre la course à la productivité du marché, et les contraintes du marché, et puis le fait qu'ils doivent payer une rente, finit par les éliminer. Mais, ça c'est quelque chose, effectivement, tu as raison, il ne faut pas passer ça trop vite, c'est qu'il y a eu au pic de la Révolution anglaise en 1649, et bien évidemment, on commence sur une révolution un peu comme en France. On commence sur une révolution qui, globalement, n'avantage que, alors en France, la bourgeoisie d'Ancien Régime, en Angleterre, ce qu'on pourrait appeler l'aristocratie pré-capitaliste, d'une certaine façon, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut appeler ça.
Une association entre fermiers, capitalistes, marchands, et
Voilà,
voilà
c'est
toute
ça.
une série de
C'est ça.
catégories. Ouais.
C'est ça. Bon, on va dire les classes qui sont déjà, enfin, qui vont devenir les classes capitalistes. Au début, ça n'avantage que eux, mais évidemment, le processus révolutionnaire, comme ils doivent faire appel aux artisans, beaucoup aux artisans et aux paysans, Eh bien, évidemment, il y a des moments où la Révolution anglaise, eh ben, en 1648-1649, elle est au bord d'aller un peu plus loin. Donc, il y a deux mouvements qui illustrent ça. Il y a le mouvement des levelers, donc les niveleurs, d'une certaine façon. Eux, ils sont pour une espèce de. Bon, c'est des artisans, principalement. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est le droit de vote une espèce de, un peu plus d'égalité économique, entre guillemets. Et il y a un mouvement beaucoup plus radical, qui est le mouvement des diggers, et qui, eux, proposent carrément de communiser les terres. Voilà. Et de, alors avec un côté un petit peu messianique, c'est-à-dire, voilà, on va communiser le royaume de Dieu sur terre. Alors c'est évidemment la résurgence de toutes les insurrections paysannes depuis la crise du féodalisme, qui ont toujours eu, enfin, qui ont parfois eu des phases où un peu euphoriques, où bah, la terre est à tous, voilà, c'est Dieu qui nous l'a donnée, et communisons-la. Et en fait, Cromwell va écraser ces deux mouvements violemment, voilà, en 1649-1650. Donc voilà, bon, c'est malheureusement des mouvements qui ont perdu, mais c'est intéressant de voir que cette révolution qui globalement concerne, disons, deux fractions des classes dominantes, va finir par, comme tout processus révolutionnaire, par faire naître des formes beaucoup plus radicales, à fur et à mesure que les acteurs qui peuvent porter ces formes les plus radicales, c'est-à-dire les paysans et les artisans, notamment les paysans sans terre, vont avoir une place plus importante, voilà, dans l'armée de Cromwell et tout ça. Mais finalement, Cromwell va écraser cette révolution.
Ok, mais on va essayer de rentrer dans l'analyse de la troisième phase qu'on peut dater de 1689 à 1832, qu'on pourrait là caractériser par par le côté révolution militaire anglaise. Là encore, des guerres perpétuelles. On va croire que c'est tout le temps la guerre, ce qui était plus ou moins le cas finalement. Alors, l'ennemi change, effectivement, tu as précisé plus les Hollandais dans un premier temps par rapport à des guerres commerciales notamment, puis la France dans un second temps et pour une période très longue. Peut-être, et une autre vague aussi très administrée d'Enclosure Acts à ce moment-là, et un niveau, on va dire, de proto-industrialisation là aussi qui augmente très, très largement. Et bon, le processus d'unification du marché, lui qui était déjà à l'œuvre, on l'a déjà vu dans la période précédente, mais qui, on va dire, pareil, se renforce. Peut-être tu peux rentrer un peu dans les détails aussi de dynamique voilà, pendant cette dernière phase sur laquelle on s'arrêtera. Alors, on s'arrête sur 1832, qui est la phase des Factory Acts. Donc là où avec bon, ça aussi c'est on rentre dans une autre phase du capitalisme que Marx appelle la subsomption. On passe de la subsomption formelle à la subsomption réelle, mais là on va pas rentrer trop dans les détails, donc peut-être juste avoir des détails sur cette période-là.
Alors du coup, bon, pour finir sur comment est-ce qu'on arrive à ce début de période, c'est que la Restauration anglaise, donc, qui avait triomphé à partir de 1660, à un moment, Jacques II va succéder à Charles Ier en 1685, et lui, ce qu'il veut, c'est faire Louis XIV en Angleterre. Or, bah, y a un décalage en termes de classe sociale, au sens large. Et de structure sociale. C'est pas du tout, on n'est pas dans les mêmes structures. Et donc, du coup, bah, évidemment, les capitalistes agraires vont s'opposer fortement à Jacques II. Et il va perdre la dernière des guerres civiles anglaises en 1688-1689. Il va y avoir un remplacement de dynastie. C'est-à-dire que le roi de Hollande va devenir roi d'Angleterre. Donc, ça va être la dynastie des Oranges. Et donc, du coup, bon, ça va. Et du coup, tous les acquis, entre guillemets, de la Révolution anglaise persistent, et même il y a des nouvelles choses qui s'ajoutent en 1689, puisqu'en 1689, on abolit même le monopole légal sur le commerce extérieur. Bon, là, il y a eu une exception ou deux, mais c'est-à-dire que même les compagnies, par exemple, qui avaient le monopole sur la traite des esclaves, parce que ça, c'est un moment effectivement qui est très important dans l'émergence du capitalisme. Aujourd'hui, on considère que les profits qui sont liés à la traite des esclaves jouent quand même un rôle très très important dans l'émergence du capitalisme en Angleterre. Je pense que ça fera l'objet d'une autre émission, mais je pense que c'est important de le rappeler. Mais disons que même le marché de la traite des esclaves va devenir un marché concurrentiel. C'est plus un acteur qui a le monopole de la traite des esclaves en Angleterre, et ce monopole est donné par le roi. C'est carrément même il va y avoir une espèce de, c'est horrible, hein, mais un marché concurrentiel pour la traite des esclaves. Voilà. Donc, disons que 1689 approfondit encore ce qui s'était passé auparavant et va l'approfondir sur un autre domaine qui est la révolution financière. C'est-à-dire que avec la création de la Banque d'Angleterre, les investissements capitalistiques vont être facilités grandement. L'accès au crédit va être. La Banque d'Angleterre est créée en 1695, et donc suite à cette révolution. Et du coup, elle va centraliser la monnaie. Donc ça, c'est important. Il y a une monnaie. En France, à la même époque, il n'y a pas une monnaie, il y en a plein. En Angleterre, globalement, il y a une monnaie, voilà, qui est la livre, qui est émise par une banque centrale, qui va donc pouvoir à la fois financer l'État anglais massivement pour ses guerres. On a parlé de deuxième guerre de 100 ans, parce qu'en gros, la France, entre 1688 et 1815, est en guerre avec l'Angleterre de manière quasiment pas permanente, mais enfin, elle est en guerre de. La France et l'Angleterre sont en guerre de 1688 à 1713, de 1756 à 1763, pendant la Révolution américaine, pendant 10 ans, du coup. Et puis après, pendant 25 ans quasiment, 23 ans, pendant les guerres napoléoniennes.
Et
Donc,
pas seulement sur le front entre la France et l'Angleterre, mais aussi dans les Caraïbes, voilà,
au
au
Canada, en
Canada,
Inde,
voilà,
quasiment
donc
des guerres mondiales, quoi.
voilà, le théâtre est assez large pour toutes les guerres qui ont eu lieu entre la France et l'Angleterre à ce moment-là, avec la France qui passe son temps à se protéger, à fabriquer des forts de plus en plus gros, le fort de Martinique par exemple,
C'est
pour
ça.
eux, voilà, contre les Anglais qui des fois a même pas le temps de faire le fort avant que les Anglais attaquent.
C'est
Enfin
ça.
voilà,
C'est ça
c'est.
qu'il faut rappeler, effectivement, c'est que l'Angleterre, on a beaucoup l'image de l'Angleterre, voilà, un État faible, une petite armée minable. Et en fait, c'est une image qui est complètement fausse. Déjà, ça c'est quelque chose qui est important de le rappeler, je pense, surtout à ce stade de l'émission, c'est que le premier État véritablement centralisé de l'histoire, c'est l'État anglais. C'est le premier État où déjà il y a une unification territoriale. En France, la monarchie absolue se superpose à tout un tas de féodalités, de seigneuries, d'évêchés, de villes qui ont des privilèges et qui sont autonomes et tout ça. En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, c'est peut-être que c'est un peu rapide de le dire, mais globalement, à la fin du XVIIe siècle, s'achève un processus d'unification qui a commencé très tôt, en 1066, quand Guillaume le Conquérant conquiert l'Angleterre, et ben voilà, il met la main sur toute l'Angleterre. Et c'est pas juste sur un bout de la France, comme la monarchie française. Et
Pour aboutir effectivement précocement à ce qu'on pourrait appeler un État-nation ou l'État dans sa forme moderne, quoi, qui
c'est
va
ça.
arriver qu'en 1789
France.
en France.
Le nationalisme anglais existe déjà en fait au XVIIIe siècle. Il y a déjà, parce que de fait, il y a une langue, il y a un marché, il y a un processus d'unification, de nationalisation des sociétés, pour parler comme Gérard Noiriel, qui est fait parce que cet État, il est centralisé, personne ne le conteste, parce que les classes dominantes sont incluses dans cet État. En France, c'est un petit peu plus ambigu, puisque par exemple, bon, les seigneurs participent à la fois à l'absolutisme quand ça les intéresse, et puis quand ça les emmerde, ils vont faire des révoltes, comme la Fronde encore au milieu du XVIIe siècle. Et même encore les frondes parlementaires à la fin de l'Ancien Régime. Du coup, il n'y a pas d'unification de la France avant la Révolution française. Et d'ailleurs, c'est une des légitimations de la Révolution française, c'est d'avoir unifié véritablement la France. Enfin, la bourgeoisie dit qu'elle a unifié véritablement la France. En Angleterre, la situation est très différente. Depuis même 1066 ou 1215, l'aristocratie fait partie de la monarchie. Alors, c'est pas encore un État, de la monarchie, parce qu'elle fait partie du Parlement, qui est une des institutions centrales. Donc, c'est la représentation de la classe dominante. Alors, au début, c'est des barons, tout ça, des aristocrates. Et puis, bon, si on va très très loin, il y a eu un processus de modernisation et tout ça. Si on arrive à la fin du XVIIe siècle, là, on est véritablement sur un État moderne, parce qu'il y a une bureaucratie qui est payée par des impôts qui sont prélevés, d'ailleurs, en partie sur la classe dominante elle-même, et qui va servir à améliorer la position du capitalisme anglais face à d'autres sociétés qui, elles, ne sont pas encore face à d'autres États qui, eux, ne sont pas encore capitalistes. Et donc, la centralisation de l'État va permettre de lever d'énormes sommes d'impôts qui font qu'en fait, le prélèvement en Angleterre en termes d'impôts est plus important au XVIIIe siècle qu'en France. Parce que, comme la classe capitaliste est au pouvoir, à travers le Parlement, et que la monarchie, quand même, elle a du pouvoir, mais elle n'est pas aussi forte qu'en France, disons, eh bien, elle va accepter de s'auto-ponctionner, alors que les nobles ne veulent pas du tout s'auto-ponctionner. On se souvient, hein, en France, les nobles refusent de payer l'impôt jusqu'en 1789. C'est pour ça, d'ailleurs, que l'Ancien Régime entre en crise. En Angleterre, pas de problème, puisqu'ils sont aux commandes, et que ça se fait dans leurs intérêts, c'est-à-dire, en fait, bah, de faire la guerre contre des rivaux commerciaux. Et ça va leur permettre cette capacité de mobilisation fiscale, du fait que, bah, comme c'est la classe au pouvoir, du fait que c'est la classe au pouvoir, ils vont s'auto-imposer de manière très forte, et ce qui va leur permettre de gagner toutes les guerres, globalement, qui vont mener contre la France, notamment pendant la guerre de 7 ans, en 1756-1763. Et on peut dire d'ailleurs que la puissance de l'Angleterre, du fait justement qu'elle est déjà passée au capitalisme, qu'elle est déjà dans un état moderne, va notamment entraîner la chute de l'Ancien Régime en France. Parce que l'Ancien Régime, lui, avec, disons, la ponction monarchique et féodale, dans un système non capitaliste, où il n'y a pas d'augmentation de la productivité, où il n'y a pas de capacité de lever des impôts aussi importants, où il n'y a pas de révolution financière et tout ça, bah, ne va pas pouvoir suivre. Et c'est ça qui va amener, notamment, mais ça, on le développera dans une autre émission que celle-ci.
Sur la naissance du capitalisme français, avec une naissance plus conquérante, avec le bonapartisme, etc. Un peu aussi en réaction au fait qu'ils n'étaient pas forcément en mesure de prélever ce niveau de fiscalité avec une structure agraire qui n'était pas non plus en mesure d'être ponctionnée à ce point-là dans des logiques monétaires sonnantes et trébuchantes et financer, en l'occurrence, les guerres. Et, voilà.
Et après, je pense que c'est important maintenant de passer sur la dernière phase. Hein. Bon, voilà, il y a toutes ces nouvelles transformations. Alors, d'une part, bon, je ne vais pas trop développer ça, mais il y a une troisième vague d'enclosure. Voilà, bon, c'est bizarre, il restait encore des paysans à cette époque, oui, il en restait 10% à peu près. C'était en gros les gros paysans quoi, qui avaient réussi à peu près à s'adapter au marché, entre guillemets. Hein. Ça se fait toujours, l'écrémage se fait toujours par phase. Les paysans qui avaient réussi à s'adapter au marché, ils n'ont pas encore assez d'hectares, ils ne sont pas vraiment des fermiers capitalistes, ils n'ont pas ou peu de salariés agricoles, et ben ils vont progressivement être éliminés par les mécanismes de marché, mais ça c'est pas directement les enclosures actes. Les enclosures actes, c'est tous les communs qui restaient et qui permettait à tous les gens qui s'étaient fait exclure de leur terre, bon, de survivre avec une vache, en cueillant des champignons et tout ça, ça représente quand même 1 million d'hectares, quand même, hein, donc c'est pas rien, et bien tous ces communs vont être appropriés entre les différents propriétaires fonciers capitalistes et les différents fermiers capitalistes de 1750 à 1850 par des actes du Parlement qui vont dire... Bon, bah, ça, là-bas, là, dans le comté de machin,
Là, c'est une dynamique aussi, contrairement aux autres mouvements d'enclosure, très centralisée aussi. Elle a
C'est
cette
ça, elle est très
caractéristique-là.
centralisée.
Ouais. Donc, on est vraiment là sur l'état moderne et dans sa capacité à pouvoir voilà, développer des politiques. Et là, en l'occurrence, effectivement, enfin, exproprier
1 million d'hectares quand même.
massivement 1 million d'hectares. Ouais.
Alors que la France, les physiocrates, on verra ça dans l'émission, ce qu'on fera sur la France, mais en France, les physiocrates veulent faire la même chose, ils vont pas réussir. Ils ont, en fait, c'est incroyable, mais jusqu'à aujourd'hui, bon, aujourd'hui, on est très très loin, mais jusqu'à aujourd'hui, enfin, ça s'est fait très lentement, mais il n'y a jamais eu un moment où disons, la classe capitaliste a, en France, a réussi à exproprier massivement les paysans, enfin, bon, qui sont devenus des exploitants agricoles et tout ça. Alors aujourd'hui, bien sûr, il y a des dynamiques de concentration et tout ça, mais même pendant la Révolution française, la paysannerie française, on le verra, ne va pas se faire exproprier massivement. Au contraire, elle a plus de terres à la fin du 19e siècle qu'à la fin du 17e
Elle
siècle.
récupère les ventes des biens
Elle en
nationaux
récupère une partie.
et les terres du clergé. Et elle va même se mobiliser parfois contre les bourgeois et les commerçants qui vont vouloir racheter les terres,
C'est ça.
notamment dans le nord de la France. C'est assez documenté
Ouais.
dans la thèse de Georges Lefebvre.
Ouais. Et ben du coup, pour le cas, pour le coup, en Angleterre, on n'est pas du tout sur ce scénario-là. Et du coup, le dernier phénomène qu'il faut quand même aborder, même si je pense qu'on rentrera pas trop dans les détails, puisque finalement, c'est un peu la cerise sur le gâteau de l'émergence du capitalisme en Angleterre, c'est le fait que le capitalisme agraire naît d'abord en Angleterre, le capitalisme financier naît d'abord en Angleterre avec la Banque d'Angleterre, et le capitalisme industriel naît aussi d'abord en Angleterre. Alors évidemment, il y avait déjà des manufactures, il y avait des manufactures médiévales, il y avait déjà des manufactures, voilà, des manufactures métallurgiques, voilà.
D'ailleurs, il y avait ça dans les autres pays
Il y en avait
aussi,
aussi.
des manufactures d'État.
C'est ça.
Enfin, voilà, tout le monde est quand même impliqué dans la course à l'armement en Europe et a constitué ces manufactures d'État. Donc, c'est pas non plus là une spécificité
Anglaise, ouais.
anglaise, mais par contre, effectivement, l'industrialisation, elle.
Voilà. Et donc, du coup, c'est aussi le premier pays, l'Angleterre, où va y avoir une industrialisation. Voilà. Alors, je pense qu'il faut peut-être, je sais pas si c'est très utile, mais je pense que c'est important quand même de dire pourquoi est-ce qu'on arrive à l'industrialisation. On en a fait beaucoup une espèce d'aboutissement, voilà, du progrès technique et tout ça. En réalité, comme l'explique un historien qui s'appelle Andreas Molnek dans un ouvrage qui s'appelle Rethinking the Industrial Revolution, donc Repenser la révolution industrielle, qui est aussi un historien marxiste dans la lignée d'Hélène Mecklenburg-Seward et de Robert Brenner, sur lesquels globalement on s'est appuyé dans cette émission, eh ben, lui il explique que la révolution industrielle, c'est tout simplement l'aboutissement d'un processus interne aux manufactures. C'est-à-dire que les manufactures au début, c'est simplement on groupe des artisans. Et on les groupe pour les faire travailler ensemble, pour que ce soit plus efficace et tout. Et à un moment, eh ben, on va considérer que bon, bah, c'est parce que on commence à imiter les dynamiques qui sont présentes dans l'agriculture. On a un marché national aussi, disons des biens manufacturés et tout ça.
Et disons que la manufacture, il y a le rassemblement de corps de métier, mais les métiers ne sont pas transformés en tant que tels. Par contre, il y a quand même une première forme d'abstraction géographique
Oui,
avec la réunion
c'est ça.
de travailleurs dans un lieu particulier qui est le lieu de travail. Et donc, il y a déjà aussi une forme de dissociation sur la question du travail, puisqu'il se passe à un endroit particulier où on réunit des corps de métier. Mais contrairement effectivement à la machinerie, il n'y a pas eu de reconfiguration du travail en tant que tel. C'est plus, donc ça, c'est effectivement une distinction
Ouais.
forte. Et là, effectivement, en Angleterre, va se passer des métamorphoses de la manufacture vers l'industrie.
Bah, du coup, d'abord vers ce qu'on va appeler le système des fabriques, en fait. C'est
D'abord,
ça.
voilà, les fabriques. Ouais.
Voilà, les fabriques. Alors, du coup, bon, c'est quoi la différence entre les manufactures et les fabriques? Bah, globalement, c'est que on va ramener. Déjà, pour augmenter la productivité de ces artisans qui restent des artisans, on va leur donner des machines. Il va y avoir un processus de mécanisation très important. Donc vous allez voir le métier à tisser, mécanique, le métier à filer, mécanique et tout ça, parce que la révolution industrielle, c'est quand même beaucoup d'abord du textile. Et on va augmenter cette productivité parce que il y a parce que bon voilà la productivité des artisans est trop faible, ils ont une trop grande maîtrise sur le procès de travail, et on veut voilà faire qu'ils produisent de la marchandise parce qu'il y a un immense marché qui est évidemment le marché de Londres.
Londres, oui.
Bah, il faut vertir 500 000 maintenant à la fin du 18e siècle, 1 million de personnes. Donc il y a quand même 1 million de personnes à vêtir. Donc ça fait un marché gigantesque et qu'on peut, du coup, qu'on ne peut plus pourvoir ou qu'on pourrait pourvoir, disons, de manière plus efficace en finissant avec ce qu'on avait appelé la proto-industrie. À mon avis, je pense que le concept n'est pas très juste, mais avec ces artisans qui travaillent chez eux et qui... voilà, qui filent, qui tissent chez eux, et qui ensuite revendent à un marchand. Mais le problème, c'est que c'est pas assez efficace. Alors du coup, bon, il y a le premier mécanisme, évidemment, il y a la manufacture, mais la manufacture, globalement, c'est juste des artisans qui sont ensemble dans la même unité de production, mais qui maîtrisent totalement leur procès de production. La fabrique, ça va être, déjà, comme ça devient mécanique, il y a une première déqualification. Donc, on va pouvoir commencer à employer par-ci, par-là des enfants et des femmes.
Il y a une première soumission au procès de production
c'est ça.
Du travailleur aussi. Il maîtrise un peu moins le rythme avec lequel il va produire le nombre de marchandises.
C'est ça. Alors, voilà. Donc, du coup, on va ramener des machines et on va instaurer un règlement disciplinaire. C'est-à-dire que ce n'est plus les artisans rentrent et ressortent quand ils veulent du moment qu'à la fin, ils ont fait la commande. Non, non, là, c'est vraiment... On ouvre les portes à 5h, on les ferme à... Enfin, on ouvre les portes à 5h moins 5, on les ferme à 5h. Et on rouvre les portes à, je ne sais pas, 20h. On les ferme à 20h05. Donc, qui préfigure un peu l'usine, quoi. C'est-à-dire, voilà, du coup, les ouvriers sont... Enfin, les travailleurs sont encore formellement dans une partie de... Ils peuvent encore un peu maîtriser, sauf qu'ils ont des contremaîtres sur le dos. Dans le système des manufactures, il y avait des contremaîtres, mais beaucoup moins. Là, il va y avoir des contremaîtres qui vont vérifier la productivité. Là, on passe vraiment à un nouveau stade. Voilà. Et du coup, ça va être ça l'industrialisation d'abord. La deuxième phase d'industrialisation, ça va être à partir des années 1820-1830, quand les ouvriers vont carrément ne plus être maîtres de ce processus de production. Puisque là, on va introduire carrément des métiers à tisser et des métiers à filer automatiques. Alors, ce n'est pas l'automation d'aujourd'hui, hein, mais où ils vont être complètement dépossédés de... Enfin, là, ils ne maîtrisent plus du tout le processus... Enfin, beaucoup moins, disons, le processus de production. Et là, le capitaliste sera en mesure, puisque tous ces métiers à tisser et métiers à filer automatiques sont reliés à une machine vapeur, de augmenter la productivité comme il le veut. Et donc du coup, voilà, ça c'est, je pense que c'est, on va pas trop s'étaler là-dessus parce que ça a déjà été dit ailleurs et tout ça. Mais je pense que c'est important de dire que la révolution industrielle, qui ne se passe nulle part ailleurs en Europe, dans le monde même, avant les années 1850 globalement, hein, dans les autres pays, bon en France dans les années 1840 disons, elle se passe en Angleterre de manière très précoce. Et avec une dynamique où on va passer de ces petits artisans qui étaient soit isolés, soit mis ensemble, à un véritable régime disciplinaire où les travailleurs vont devenir de plus en plus des appendices du capital et de la machine et vont être forcés d'augmenter, de s'ajuster à une productivité toujours croissante, quoi. Parce qu'il y a un marché concurrentiel, unique, qui est celui de Londres. Et tout. Donc voilà ce qu'on a voulu montrer à travers toute cette deuxième partie, c'est que le capitalisme, donc il naît en Angleterre, et comme j'espère on l'a montré, c'est pas l'aboutissement logique et inéluctable de l'histoire. En réalité, il n'est né qu'en Angleterre, à travers toute une série de ruptures, Et ces ruptures auraient pu terminer autrement. C'est-à-dire, bah, si le camp, globalement, entre guillemets, réactionnaire, même si c'est peut-être pas forcément comme ça qu'il faudrait le qualifier, de Charles Ier, voilà, les vieux aristocrates l'avaient emporté, bah, c'est pas sûr qu'on aurait basculé dans le capitalisme. Si l'Espagne avait conquis l'Angleterre en 1588, c'est pas sûr qu'on serait dans le capitalisme. Bon, on serait probablement pas dans une meilleure société d'ailleurs, mais enfin bon. Voilà, toujours est-il que ce qu'on espère avoir montré, c'est que ce que l'histoire de l'Angleterre avait de singulier, et que du coup l'émergence du capitalisme, c'est un processus qui est singulier, qui est spécifique, et qui n'est pas l'aboutissement naturel d'une tendance très ancienne, voilà, qui se retrouverait partout dans le monde et qui se développerait voilà, de manière plus ou moins rapide. Voilà, c'est vraiment un processus spécifique, et du coup, le capitalisme n'a rien d'indépassable et d'inéluctable.
Voilà, bah merci beaucoup Armand, mais effectivement on revient donc du coup sur cette logique de rupture ontologique, voilà, c'est-à-dire qu'il y a eu une série d'éléments qui de manière explosive ont amené au développement du capitalisme. On a pu regarder à travers du coup cette histoire de l'Angleterre différentes phases qui passent par des processus d'exclusion, les enclosures dans différentes formes à différents moments, une logique aussi de généralisation de l'usage de la monnaie qui passe de, voilà, de monnaie vers, on va dire, forme moderne argent unique en Angleterre, et ça aussi ça s'est fait de manière progressive, une logique de commerce ou de marché ponctuel ou de place de marché vers une logique de marché unifié, généralisé, et
où on peut échanger tous les biens contre tous les biens,
ou tous les biens, voilà, il y avait des biens qui circulaient, on va dire, dans des sphères indépendantes ou répondaient à des logiques sociales particulières. Et voilà, et là on bascule progressivement aussi vers des logiques de marché généralisé et vers une force de travail qui devient du coup lui-même marchandise et qui va donc être soumis à un procès de production aussi, qui va se métamorphoser de la manufacture à la fabrique, puis à l'usine et à la grande machinerie, et s'intensifier plus tard. Donc voilà, on voit que tout ça n'est pas un simple processus d'amélioration technique, mais un processus social complexe avec une série de préconditions multiples.
Et de voilà. Conséquences funestes.
Et de conséquences dramatiques, et voilà, dont on a les résultantes dans le processus de crise actuelle. Merci beaucoup Armand. Du coup, toutes ces précisions, j'espère que vous en savez plus sur l'émergence du capitalisme en Angleterre à l'issue de cette émission. Et on vous remercie, on vous dit à bientôt sur Radio Libertaire et l'émission Sortir du capitalisme.
Sans doute, l'arme de la critique ne peut-elle remplacer la critique des armes ? La puissance matérielle ne peut être abattue que par la puissance matérielle, mais la théorie aussi, dès qu'elle s'empare des masses, devient une puissance matérielle.
Nous reconnaissons notre vieil ennemi, la marchandise, le travail marchandise, la société marchande, le capitalisme. Mais la critique le découvre comme inséparable de l'État moderne.
Alors je le dis, parce que c'est la vérité, il ne faut pas travailler.